Bonsoir tout le monde, bienvenue. On continue notre exploration des qualités du cœur. Ce soir, je voudrais parler un petit peu de la joie. Puis la première que j'ai ressentie, la dernière que j'ai ressentie, je pourrais dire, c'était la joie que vous soyez, la plupart d'entre vous, revenus, d'avoir une salle pleine. C'est bien ça. Moi, ça me touche tout le temps quand l'espace est vraiment bien utilisé. Quand il y a le dharma, les enseignements bouddhistes ou la pratique, puis que l'espace est bien, tu sais qu'il y a du monde un peu partout, là, à chaque fois, ça me touche. C'est une petite salle, puis elle est pleine. C'est une grosse salle, puis elle est pleine. Ça me touche de la même façon qu'il y a des gens qui se rassemblent, puis au lieu de faire plein d'autres affaires, à soir, c'est comme, ah, tiens, on va venir prêter attention, venir prendre soin de, un peu de nos cœurs, de notre âme, quelque chose comme ça, là, dans ces eaux-là, là, de... puis aussi prendre soin de tout, en fait, hein, parce que c'est prendre soin aussi, s'arrêter là ce soir, puis considérer un peu la vie, puis voir un peu comment on peut la rencontrer. C'est aussi prendre soin de nos relations, tu sais. Ce qu'on fait là, c'est pas isolé, là, ça va influencer ce qui va venir plus tard dans la semaine. Là. C'est un bel apport à ce qui va s'en venir plus tard. On peut parler de ça en termes de neuroplasticité, de l'influence que ça va avoir. On peut parler de ça en termes de karma. Oh, freak! En termes de karma, en fait, ça veut juste dire que nos actions, nos pensées, nos actions, toutes nos intentions. Le karma, c'est les intentions. Les intentions, ça veut dire ce qu'on fait avec notre esprit, ce qu'on fait avec nos gestes, avec nos paroles, que ça a une portée. Hein? Je pense que d'une certaine façon, on sait tout ça, on connaît tout ça, on a cette expérience-là du karma. Que nos gestes, nos pensées ont une influence sur comment on vit le moment ou l'autre d'après. Là, si je parle contre quelqu'un, puis que là, d'un coup, la personne arrive, c'est sûr que ça va jouer là, sur ce que je viens juste de dire. Peut-être pas sur comment la personne va être, mais comment moi je vais être avec elle. En tout cas, ça va avoir une influence. En tout cas, je dis ça de même. Non, mais c'est bien parce que des fois, on pense que c'est un peu isolé, on fait ça, puis là, on retourne dans notre vie, qui est tout croche, misérable, pas comme on voudrait, tu sais. Mais ce qu'on fait là, en fait, c'est ça, ça a une influence, certainement sur notre intériorité. Parce que je voudrais pas créer trop de pensées magiques non plus, là, c'est dangereux quand tu t'embarques là-dedans. Tu fais ça, là, puis après ça, là, tu vas avoir un yacht, puis tu sais, toute ta vie, tu vas être prospère, puis le monde ne va plus jamais t'écœurer. Ben non. Tu n'auras probablement pas de yacht, la plupart d'entre nous. Puis le monde va continuer à t'écœurer. Waouh, il commence ses chapeaux de roue. Le Bouddha, lui, qui était un être très, très sage, comme le Christ, qui était connu pour être un être très, très sage, il y a du monde qui les haïssait. T'sais. Il y a du monde qui leur faisait du trouble. Puis, les choses n'étaient pas parfaites. T'sais, le Bouddha, on voit à la fin de sa vie, avait très mal au dos. Des scènes, des textes là, qu'on lit, des vieux documents là, qui ont été répertoriés, de conversations qu'il y a eu. Puis, des soirs, il disait, ah! Il demandait à son très meilleur ami, cousin, Ananda, il disait, peux-tu, s'il te plaît, faire les enseignements ce soir? Parce que j'ai trop mal au dos, il faut que j'aille me coucher. T'sais. Mais comment était son cœur? Comment était son... Aussi, dans ces textes-là, on voit qu'il n'y avait pas de... Il ne tombait pas dans « Pourquoi moi? » C'était ça, la sagesse. C'était « Ah, il y a ça. Il y a le dos qui est défectueux ou qui est endolori ou qui est... Dans lequel il y a de... Puis quelle est la chose sage à faire? » Ah, bien, c'était d'être compatissant, d'être sage, d'aller se reposer. Donc... Là, je parle un peu de toutes les qualités du cœur. J'ai fait la liste la semaine passée, vous vous en souvenez peut-être, je repasse dessus rapidement. Alors, la qualité dont on a parlé la semaine passée, c'est la bienveillance. Alors, un regard bienveillant, une écoute bienveillante. Puis, vous avez peut-être eu la chance d'explorer ça dans votre propre vie la semaine dernière. Puis, on va peut-être en parler tout à l'heure là, des 5 minutes de plus de méditation par jour que vous avez fait. Puis, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Puis, est-ce qu'il y a des choses qui ont ressorti sur le... pouvoir de la bienveillance, là. Pouvoir sur son propre esprit, son propre cœur, sur son expérience, quand il y a de la bienveillance. Puis, une deuxième qualité, donc ce soir, ça va être la joie. Puis je vais essayer de nommer différentes formes de joie qui sont dans la pensée bouddhique ou la pratique de la méditation ou dans les attitudes. La joie, c'est très, très, très présent dans les enseignements bouddhiques. Puis ça prend toutes sortes de formes de manifestation. Ce soir, je n'aurai pas le temps d'aller à fond dans toutes ces formes-là. Mais après cette série-là, moi, j'ai décidé de faire une série spécialement sur la joie. Fait que, donc, à soir, on va faire un petit snippet là-dessus. On va regarder ça. Une autre des qualités. Donc, la joie, c'est la bienveillance qui rencontre, entre autres, on pourrait dire, c'est la bienveillance qui rencontre ce qui se passe bien, ce qui est beau, ce qui est appréciable, ce qui est dans ces eaux-là, le succès, ou les belles qualités des autres, etc. Alors, waouh, la joie peut naître. Quand la bienveillance rencontre ce qui est difficile, troublant pour soi ou pour l'autre, de façon sociétale, on pourrait dire, ou individuelle, relationnelle, physique, émotif, mental, quand l'esprit qui est dégagé, sage, rencontre ce qui est difficile, naturellement, ou en le cultivant, c'est ce qu'on fait dans cette pratique-ci aussi, on a accès à la compassion. C'est une capacité d'être avec le difficile sans perdre pied, sans paralyser, sans détourner le regard, mais en restant là, impliqué, engagé, d'une façon équilibrée. Puis la dernière qualité, c'est l'équanimité, l'équilibre, qui est bienvenue dans toutes ces émotions-là, ou ces attitudes, ou ces états d'esprit-là. L'équanimité, la capacité qu'on développe, je vais en parler dans deux semaines, avec la sagesse, d'être au milieu de ce qui est, avec intérêt, avec présence, avec tous nos moyens qu'on a, chacun d'entre nous, des talents ou des qualités différentes, là, mais qu'on ne les perde pas à gauche puis à droite quand ça ne se passe pas comme on veut, ou quand c'est trop excitant ou trop nouveau ou confondant, tu sais, qu'on puisse garder nos qualités d'amical pour ceux d'entre nous qui le sont, les toutes, à quelque part. Notre générosité, nos belles qualités, qu'elles puissent rester là dans différentes situations. Waouh! C'est beau. Belle stock. Il ne faudrait pas sentir la pression, là, genre, oh mon Dieu, il faut que je devienne un humanoïde parfait. T'sais, une utopie marchant sur des qui ne se choque jamais, qui est toujours équilibré, puis à la fois joyeux et compatissant. Ça ne marche pas de même, évidemment. Hein. Le mot me vient en anglais, messy. C'est un peu plus tout croche que ça, la réalité. Hein. On perd pied souvent, etc. Mais de se rappeler de ça par la pratique qu'on fait ce soir, on peut, tu sais, juste, oups, on se rappelle, ah oui, il y a peut-être une autre façon. J'ai le goût de valoriser une autre façon d'être que la réactivité, que faire payer. Tu sais, essayons une autre version. D'habitude, je ferais payer. Là, je vais essayer la bienveillance, juste pour voir si ça serait bénéfique pour moi et pour l'autre. OK, fait que la joie, le soir où on parle de la joie, il ne faudrait pas non plus sentir trop de pression. Là, OK, là, il faut être joyeux. Là, à soir, c'est joyeux. La semaine prochaine, c'est compatissant. À soir, c'est... Non. On en parle. On considère ça. Ça se peut qu'à soir, on ne soit pas joyeux pantoute. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avant ou cette semaine ou ces temps-ci. Tu sais. Mais c'est bien de considérer ça. Juste de se permettre de dire, ah tiens, je... considérer ça à soi, même si je n'ai pas accès à ça, je sens que mon cœur est fermé ou que c'est bien, bien loin, c'est correct. Hein? Parce que quand on vient dans le monde de la méditation puis de la pratique qu'on fait là, on vient humblement. C'est une des qualités. On vient humblement. On ne vient pas en exigeant quoi que ce soit. On vient humblement, puis simplement. T'sais? Puis on tend l'oreille. Puis c'est un peu souvent comme si on plantait des graines, en fait. T'sais? On plante des petites graines, puis on va considérer la joie comme ça. C'est plutôt planter une graine. Puis là, tu peux pas tirer sa graine, engueuler la graine. Ouais. T'sais. Même s'il sort une petite affaire, tu peux pas pousser dessus pour voir si la carotte... c'est délicat. Hein? C'est le monde dans lequel on est, le monde des états d'âme, des états d'esprit, des qualités mentales. C'est délicat. On peut pas pousser là-dessus. On peut inviter ça, nourrir ça. T'sais. On se comprend. Alors là, si on est exigeant avec nous-mêmes, là, qu'on devrait, quoi que ce soit, c'est vraiment bien de s'en rendre compte, de faire « Ah tiens, voici quelque chose que je ne veux pas encourager, je ne veux pas nourrir ça. » L'exigence de la joie, ça serait une autre... c'est une autre sorte de... On appelle ça des fois une... le mot m'échappe, le material spirituality, ou c'est comme acquérir, là, encore acquérir d'autres choses. Là, je veux pas une flat screen, je veux de la joie. C'est la nouvelle valeur, ça m'en prend. Je compare avec celle des autres. C'est pas tellement ça dont il s'agit. Petite histoire, peut-être personnelle, juste en commençant. En fin de semaine, moi, j'avais des funérailles, en fait, parce qu'une de mes tantes est décédée la semaine dernière. J'étais assez jeune encore. Elle était, en tout cas, elle était assez malade. C'était quelqu'un de très joyeux, qui offrait beaucoup de... qui était très comme généreux et joyeux. Puis c'était le service, puis le salon funéraire, c'était en termes de karma, là, je pourrais dire, ou de cause à effet, là, je trouvais que ça m'a touché toute la fin de semaine de voir à quel point sa joie, pour elle, ça prenait une forme d'un genre de... Quelqu'un décrit ça en son brin de folie, tu sais. Comment il était encore présent à... au salon funéraire, là, puis pendant le service, il y avait quelque chose qu'on retournait facilement vers la joie avec... je voyais même sa fille qui était là, qui était... Je la voyais sourire, rigoler même des fois, tu sais, puis c'était comme on aurait dit qu'elle était là, tu sais. C'est une façon, j'utilise une image, là, quelqu'un d'autre pourrait le sentir vraiment le même. Pour moi, c'est une image. Là. J'avais comme l'impression qu'elle était là, parce que je me disais, ah, c'est drôle. Les gens sont là, ah, elle nous a joué un tour, c'est le genre de choses qu'on entend. Ah, elle nous a joué un maudit tour. En partant si tôt, tu sais. Alors, il y avait comme... Puis je me disais, waouh, c'est incroyable ce qu'elle a légué, tu sais. C'est comme, en parlant d'elle, tu pouvais presque pas éviter... Tu pouvais pas éviter une certaine joie parce que c'était des décennies d'avoir offert ça, tu sais. Alors, c'était touchant. Je me disais, ah, ouais, c'est capoté. On laisse des traces, hein. On touche d'une certaine façon. On imprègne. On impressionne. Puis là, elle, ça avait été ça, son offrande, on pourrait dire, sur toute une vie, entre autres, qui fait que ça se retrouvait pendant tout le week-end. Puis, tu sais, à d'autres endroits, ça se retrouve pas, là, tu sais, à d'autres moments, avec d'autres personnes. Fait que donc, ça. Puis là, pour commencer une pratique ce soir de la joie, il y a un mot, tiens, le mot pali, un des mots pali pour la joie, tu sais, de l'époque du Bouddha, c'est le mot mudita. M-U-D-I-T-A. Je trouve qu'il est heureux, moi, ce... Mais la plupart des gens trouvent ça, je pense, que c'est un mot assez heureux, mudita. Hein? Alors, ça fait référence à une sorte de joie particulière qu'on pourrait peut-être diviser en trois à soir. Alors, c'est la joie... Des fois, c'est décrit comme une joie sympathique. Une joie sympathique, c'est la joie... quand on peut se réjouir du bonheur des autres. Alors, c'est une joie particulière, hein? Puis dans les enseignements bouddhistes, des fois on dit que c'est une des qualités d'esprit les plus difficiles à accéder, à laquelle accéder. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on tombe dans l'envie, hein, ou la comparaison. Alors, quelqu'un a quelque chose, mais si c'est bien obtenu, là, si ça n'a pas été obtenu d'une façon éthique, on pourrait dire, là. Des fois, on va tomber facilement dans la comparaison. Mais pourquoi cette personne-là est tellement comme ça, puis moi non? Ou comment ça, elle a ça, cette personne-là, puis moi non, tu sais? Puis là, il y a un petit espace là, auquel on peut peut-être avoir accès, qui est le mudita, la joie pour le bonheur des autres. Puis je l'ai divisé en trois, parce que une de mes profs, elle a dit, tu as la joie de la qualité des autres. Tu peux te réjouir de la qualité des autres. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, on avait parlé de trois façons de pratiquer les qualités du cœur. Vous souvenez-vous? Je passe d'une liste à l'autre. Là. Mais la réflexion, réfléchir à cette qualité-là, comme on fait là en ce moment. Méditer, ça veut dire la sentir chez soi ou chez l'autre, quand elle est là ou absente. Puis la troisième version, c'est agir là-dessus. Alors donc... Quand de s'arrêter puis de penser à quelqu'un qu'on aime bien, par exemple, ce qu'on va faire dans quelques secondes, puis à penser, de penser aux qualités de cette personne-là, puis apprécier ça, prendre le temps d'apprécier ça, de vraiment donner un petit bloc de temps, un espace pour dire, il y a telle personne, puis voici ce que j'apprécie chez cette personne-là, puis se laisser nourrir par ça. Dans la pratique de la méditation ou de la pleine conscience, être attentif, souvent, quand on est attentif, ce qu'on voit, c'est ce qui ne marche pas. Hein. Nos défauts, comment notre esprit est tordu ou se juge lui-même ou tombe justement dans l'envie. Il y a toute une moitié de la pratique, des fois, j'ai l'impression, quand on est attentif, on va voir toutes sortes d'affaires qui ne marchent pas dans la société, dans les rapports avec les autres, surtout dans nos réactions internes, comment on va vers la peur, vers la... on est pris dans la planification, etc. Alors, il y a toute une moitié là, où est-ce qu'on doit apprendre à avoir de la compassion, être honnête avec ce qui se passe en nous, pas faire semblant que c'est pas là, etc., t'sais. Pas bypasser. Puis il y a toute une autre pratique, puis souvent, chez les méditants, cette moitié-là, elle est oubliée. C'est la moitié de la réjouissance. Alors, c'est très, très important de nourrir l'esprit. On appelle ça comme ça, nourrir l'esprit. En anglais, les expressions qu'on utilise, c'est « brighten the mind ». Donc, je sais pas si c'est « illuminer » ou « nourrir », c'est définitivement une expression qu'on utilise souvent. Alors, dans nos vies, plusieurs d'entre nous, on est portés à aller voir ce qui ne va pas. Hein. Ce qui n'a pas été dans le journal, on va se rappeler de ça. Puis, il y a toute une partie de la pratique qui est, en fait, d'utiliser ses sens, la vue, l'œil, la pensée, qui se remémore, qui projette, puis de le faire intentionnellement pour diriger l'attention vers ce qui est beau, aidant, appréciable. T'sais. Alors, c'est un exercice en soi, là, de s'arrêter puis de dire, tiens, je vais penser à une personne, puis je vais penser à ses belles qualités. Je vais juste me laisser nourrir. C'est une pratique pour soi-même, là. Se laisser nourrir de ça. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être soi-même. Ou penser à quelque chose de bien qui arrive à une personne. C'est pas tellement ses qualités, c'est quelque chose de bien. Je suis dans ma petite liste de trois du début, là. Alors, les qualités d'une personne, ce qu'elle vit qui est bien, alors se réjouir pour quelqu'un. Puis la troisième version, c'est offrir de la joie. Offrir de la joie. Alors, ça peut être notre participation, ça, à gauche puis à droite, quand c'est possible. Alors, c'est pas réfléchir à la joie de quelqu'un d'autre, au bonheur de quelqu'un d'autre, mais c'est lui offrir. Alors, offrir un peu de joie à quelqu'un quand c'est disponible. Alors ça peut être une très belle chose, se souvenir de ça. Tiens, je peux offrir ça. Puis c'est délicat, ça prend beaucoup d'attention pour voir, hein, quelle est la joie à offrir. Tu sais, parce que si t'arrives, tu sais, ça va tout être correct, c'est beau, joyeux, tu sais. Puis là, c'est comme, mais non. Là, ça serait l'heure de la compassion. Parce que la personne, elle sent comme de la merde. Fait que tu vas pas être plaqué de la joie dessus, là, tu sais. Ou si tu le fais, fais-le. Tu sais, il y a comme, ça prend énormément. Fait que l'écoute est toujours bienvenue là-dedans. Hein. Faut toujours être attentif, voir comment ça marche, notre affaire aussi. OK. Bon, j'ai dit bien des affaires en quelques minutes, là. Vous pouvez tout oublier ça va retrouver sa place tout seul à un moment donné. Je vous invite, si vous voulez, à trouver une posture de méditation quelconque, puis on va faire une exploration un peu de ça. Alors, dans la chaleur tropicale, pour certains d'entre nous, pour d'autres, peut-être, c'est une autre expérience. Si vous avez froid, puis vous êtes près de la fenêtre, s'il vous plaît, fermez-la pour vous. Alors, c'est toujours une bonne chose de prendre le temps de sentir le corps. Puis de découvrir ce qui est là en ce moment. Se rappelant encore une fois qu'on n'impose rien là. Mais on découvre le corps comme il est, dans sa fatigue ou en douleurie ou bien. C'est le cas. Puis on va découvrir là, que ce corps-là respire, ça va devenir apparent à un moment donné. Puis ce corps-là, ou cet esprit-là, cet être-là entend, hein, est sensible à lui, à l'oreille. On découvre aussi son état intérieur. Ça se peut qu'il y ait un certain calme en soi ou une certaine agitation. Ça se peut que l'esprit soit un peu rébarbatif, là, ou réactif, de mauvaise humeur. Ça se peut qu'il soit aussi de bonne humeur. Que ce soit neutre aussi, ni l'un ni l'autre. Alors, il y a un moment où on va découvrir ça, ça va devenir apparent par soi-même, probablement. On n'a rien à changer. Mais on pourrait voir si dans le champ de l'expérience, en ce moment, s'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est peut-être plaisant, même si c'est très légèrement plaisant, peut-être des picotements de chaleur dans les joues. L'expérience des mains qui se reposent sur les cuisses. Ou desquelles irradie de la chaleur. Une expérience de fraîcheur, peut-être, pour certains d'entre nous. Les voix, ou les sondes, entre les autos là, de la pluie. Parfois, quand on se met à se laisser entendre les sons, c'est plus une expérience d'espace dont on devient conscient. C'est possible que ce soit agréable. Silence relatif de la pièce. Si on devient conscient de la bienveillance des gens qui sont assis ici, de la bonne foi, de la bonne volonté. Peut-être possible qu'on puisse apprécier ça ou que même ça génère peut-être une petite joie infime. Et si on veut, on pourrait penser à quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime bien. Peut-être que cette personne-là est ici, qui nous a accompagnés. Ou un autre, même je vais mettre ça plus large, un être vivant qu'on connaît et qu'on aime bien. Alors vous allez peut-être voir cet être-là ou l'avoir à l'esprit. Mais laissez-vous penser particulièrement Est-ce que vous appréciez chez cette personne-là? Peut-être juste le fait qu'elle est en vie. Mais peut-être quelque chose de particulier, son humour, sa générosité, ou sa personnalité. Notre attention n'est pas éparpillée, là. On dirige notre attention vers quelque chose, une personne, un être vivant. Puis l'appréciation de cet être-là. C'est peut-être un peu chambranlant, peut-être qu'on oublie ou qu'on part dans nos habitudes mentales. Mais doucement, gentiment, on revient, clairement aussi. On revient aux qualités de cette personne-là. Il y a peut-être un aspect de la vie de cet être-là qui va bien, particulièrement bien. Alors on pourrait juste apprécier ça, se réjouir de ça, la santé ou quelque chose d'autre. Dans la pratique de mudita, on peut aussi envoyer un souhait de bien-être. Que cette qualité-là, à laquelle vous pensez pour cette personne-là, grandisse et ne te quitte jamais. Ou que cette chance-là que tu as, cette chose-là qui va bien pour toi, s'approfondisse, ce bonheur-là s'approfondisse, grandisse. Vous voulez faire une phrase comme ça, puis essayer de la répéter quelques fois en pensant à cet être-là. Que ta santé perdure. Que ta joie grandisse. T'accompagne toujours. Puis doucement, on laisse peut-être les images reliées à cette personne-là, la pensée de cette personne-là se dissiper. Juste pour revenir à ce qui se passe ici maintenant, les sons ambiants, le corps assis, respirant. On voit un peu l'état d'esprit dans lequel on est. Il peut y avoir un esprit plus calme ou peut-être plus fatigué que tantôt. Il y a quelque chose qui peut s'être passé là. Peut-être que c'est pareil comme tout à l'heure, l'état dans lequel on est. On fait juste s'intéresser à ça. Si on veut, on pense à une autre personne, on fait l'exercice avec une autre personne. quelqu'un qui nous inspire peut-être, même si on ne connaît pas cette personne-là personnellement. Mais ça se peut que ce soit quelqu'un qu'on connaît bien, là, qui nous inspire, ou qui nous aime bien, ou qu'on aime bien. Une autre personne, un autre être vivant. Peut-être qu'on voit cet être-là en train de faire quelque chose qu'il aime faire dans un milieu où il ou elle est bien. Ou entouré des siens. Puis on prend un moment juste pour apprécier ces images-là ou ces pensées-là. Se réjouir peut-être pour cet être-là. On fait ça très simplement, hein? On est encore en train de planter des petites graines, là. On utilise notre esprit pensant d'une façon qu'on dit saine. Bénéfique. On tourne notre regard un peu vers l'appréciation, la joie, pour le bonheur de quelqu'un d'autre, pour le bien-être de quelqu'un d'autre. C'est peut-être quelqu'un qui a un aspect de sa vie, là, encore une fois, où ça va particulièrement bien, qui vient de tomber amoureux, qui vient de trouver un emploi qu'il ou qu'elle aime, qui part en voyage, qui a eu des bonnes nouvelles pour sa santé, quelque chose comme ça. Essayez de voir si vous voulez formuler en vous une phrase qui va exprimer un souhait que vous pourriez avoir pour cette personne-là puis son bien-être. Que ton succès continue, que ta chance grandisse, que ton bien-être s'approfondisse. Offrez cette phrase-là quelques fois si vous voulez. Et laissez dissiper les pensées reliées à cet être-là, puis revenez juste au corps ici, qui est assis. Voyez si ça peut être connu, cette expérience-là, de l'audition, le bruit de la ville. L'expérience du corps tel qu'il est, là, à l'aise ou inconfortable un peu. C'est possible de relâcher toute exigence de quelqu'un, de quelque chose d'autre, désir de quelque chose d'autre. Est-ce qu'on pourrait être complètement juste là, avec ce qui est là, juste pour un moment, une, deux secondes, plus? Devenez conscient, éveillé, encore une fois, à votre état d'esprit présent. Prenez note que l'esprit est éparpillé ou ramassé, calme, posé, ou quoi que ce soit d'autre. Je donne juste quelques exemples de ce qu'on peut découvrir. Ça se peut que ce soit pogné en vous, dégagé, centré. Oui, ça peut être tel que c'est en ce moment. Ça peut être comme ça encore pour quelques secondes. Maintenant que la méditation est finie, si vous voulez reprendre vos attentes, vouloir à nouveau autre chose, vous pouvez, si vous ne voulez pas reprendre ça, laissez ça là, au sol. Alors, une des formes de joie, c'est la capacité de se tourner vers, de reconnaître ce qui va bien à quelque part. Pas à l'exclusion du reste, là. On ne veut pas débalancer le système, puis là, tout à coup, juste voir ce qui va bien. Hein, on voit les quatre qualités du cœur, parce que là, cette semaine, c'est celle-là. Mais après, la semaine prochaine, on va aller dans le champ de bataille, on pourrait dire, de ce qui est plus difficile, de ce qui est plus douloureux ou inconfortable ou confondant. Fait qu'on n'est pas dans l'évitement, là. On n'est pas genre, tout va bien. On ne dit pas ça, mais on dit, il y a des affaires qui vont bien. Puis c'est important de les reconnaître, tu sais. C'est pour équilibrer notre esprit qu'on fait ça. Puis, entre autres, cette pratique-là, ou ces pratiques-là autour de la joie, de nourrir par focusser, ou focaliser sur le beau, ce qui va bien, ça peut être aidant quand on est un peu, tu sais, qu'on est débiné, là, ou qu'on a calé, là, quelque part, là. Alors, ça peut être une bonne utilisation de l'esprit de se dire, attends, on va quand même prendre quelques secondes pour noter ce qui va bien. Il y a une image dans l'imagerie bouddhiste qui est très parlante, très forte. C'est, je sais pas si je vais bien la décrire, je vais avoir tous les aspects de cette image-là, c'est un classique, là, mais c'est quelqu'un qui est tombé dans un précipice, mais pas encore tombé, c'est-à-dire qu'il est dans le précipice, mais il se tient après juste d'une main, après une branche, tu sais. Puis là, il y a une petite souris qui est en train de gruger la branche. Fait qu'on sait que la personne va tomber dans le précipice, mais là, elle voit une fraise qui pousse dans la... Puis l'image, c'est que la personne, d'une main, tient la branche qui va bientôt lâcher dans le précipice, puis d'un autre, est capable d'apprécier qu'il y a une fraise, la beauté de la fraise, puis d'y goûter, tu sais. Parce que c'est aussi en train de se passer. Il y a ça qui est là aussi. Alors, on pourrait juste focaliser sur le fait que ça va vraiment mal, tu sais. Mais la personne, peut-être oublie pas ça, mais elle est capable de faire comme « Ah, mais il se passe autre chose, tu sais. » Et on va le voir souvent chez les personnes. En tout cas, je ne sais pas souvent, mais je pense qu'on connaît ça. Quelqu'un qui est alité à l'hôpital, puis dans un corps qui est douloureux, tout ça, puis qui tout à coup, il va y avoir une brise qui va venir de l'extérieur. On voit à peine le ciel. Puis là, il va y avoir un petit coup de vent frais. Puis la personne va dire « Ah, ça fait tellement du bien. » Tu sais, puis à quel point c'est nourrissant pour l'esprit tout à coup qu'une petite chose. Mais là, ce qui est important, c'est la capacité de reconnaître, hein, de toucher aussi. Ça, c'est la pleine conscience, la capacité de s'approcher, de vraiment sentir quelque chose pleinement, là, hein, une expérience d'intimité avec le vent frais, avec une petite fraîcheur qui nous touche la peau. Comme là, je le suggérais peut-être, ça peut être difficile au début de reconnaître, mais qu'est-ce qui se passe dans le corps qui peut être appréciable? Ah! Je sais pas, moi, ça picote dans les joues. Ah, c'est vrai qu'en fait, j'avais pas remarqué, c'est comme mon corps, comme d'habitude, j'étais assis là, j'étais un peu fatigué, je travaille toute la journée, puis là, attends. Ah, mais les mains qui se reposent, c'est pas comme, c'est pas orgasmique, là, on décrirait pas ça comme, oh, tu sais, c'est pas... Mais c'est la qualité de la rencontre avec quelque chose qui est simple, qui est pas déplaisant, peut-être presque plus neutre, tu sais, mais avec la qualité de l'attention qu'on pose dessus, tout à coup, oups, ça peut devenir un peu apaisant, agréable. Souvent, c'est la qualité de l'attention qui va faire ça. Alors, c'est important de, d'écrire ça. Il y a un échange que j'aime vraiment beaucoup. C'est arrivé il y a 2600 ans, imaginez-vous donc. Un homme rencontre son ex-femme. Et donc, à l'époque, il y avait aussi des personnes hétérosexuelles. Alors, ça a continué. Petit joke. On va voir si vous suivez. Encore aujourd'hui, il y a des personnes hétérosexuelles. Mais ils sont bienvenus. Vous êtes bienvenus, les hétérosexuels. Vous n'êtes pas juste tolérés, vous êtes vraiment bienvenus. Non, mais il y avait... l'histoire commence avec un couple. Il y a un couple, un homme et une femme. Et l'homme a rencontré le Bouddha et dit à sa femme, « J'ai été profondément touché par cet enseignant-là. Je veux le suivre. Je te laisse tout. » t'sais. Puis elle a dit, « Attends, je ne suis pas folle. Si c'est vraiment quelqu'un de sage, je veux le suivre aussi. » Alors, les deux partent et deviennent moines et moniales. Et elle est vraiment très bonne pratiquante. Fait qu'à un moment donné, elle rencontre son mari, puis ils ont une conversation. Puis c'est elle qui lui enseigne. Puis à l'époque du Bouddha, Dhammadina était connue comme, je ne me rappelle pas de son titre exact, là, mais on dit la plus... Elle a un titre, là, comme la, mettons la plus sage, là. Plusieurs des disciples du Bouddha, quelques-uns des disciples du Bouddha avaient des titres de « foremost in », tu sais, quelque chose, concentration, là, celle qui se concentre le plus, celle qui a le plus de sagesse, tout ça. Puis elle était une des disciples qui était connue comme étant très, très sage. Puis là, son ex-mari, donc, lui demande « Dis-moi quelque chose sur le plaisir, le déplaisir. » Elle dit beaucoup d'affaires, mais il y a une petite affaire que je trouve belle puis qui a rapport à soi, c'est qu'elle dit « Quand... elle dit, quand quelque chose qui est déplaisant, quand ça finit, c'est plaisant. » Ça a une certaine profondeur, hein, quand même, parce qu'on peut facilement oublier ça. Puis elle dit, « Ah, puis quelque chose qui est plaisant, quand ça finit, c'est déplaisant. » Mais le morceau que je veux, que je trouve important ce soir, c'est qu'elle dit, quelque chose qui est neutre, un événement, un phénomène, quelque chose qui est vécu, qui est ni plaisant ni déplaisant, quand on n'est pas attentif, c'est porté souvent à devenir déplaisant. Puis quand on est attentif, ça peut facilement devenir plaisant. Alors, ça parle de la qualité de l'esprit qui rencontre le... Tu sais, t'es là, il se passe peu de choses. Souvent, chez nous, ça va mener vers une sorte d'angoisse ou d'ennui ou de... Genre, voyons, il se passe rien, il se passe rien, il va changer de poste, je sais pas. Comment ça, il se passe rien, je vois rien. Tu sais, on fait des associations très étranges, tu sais. On a un mauvais rapport avec la neutralité, plusieurs d'entre nous, tu sais, depuis longtemps. Et là, elle a dit la qualité de l'attention. Dans la méditation, je joue beaucoup avec ça, parce qu'en fait, on fait rien, il se passe rien. Tu sais. Et pourtant, on prête attention, on amène une attention qui est différente de l'attention qui veut autre chose, qui veut être stimulée. On fait juste sentir ça, puis là, tout à coup, on peut voir, ah, les mains qui touchent les jambes. Regardons ça, c'est touchant des mains. Ah, une inspiration. Tu sais, au début, quand on commence à méditer, une inspiration, je ne m'intéresse pas, donne-moi d'autres choses, de plus intense, tu sais, une opinion, un traumatisme. Tu sais. Et là, on peut apprendre à juste sentir ça, puis trouver quelque chose là-dedans. Alors, c'est la qualité de la rencontre. Alors, ça, c'est très important dans le développement de la joie, ce dont je parle là. Parce qu'on arrive là dans la région du contentement. Le contentement, c'est la capacité d'être pleinement avec ce qui est là, sans avoir besoin qu'il se passe autre chose. Et nous, on souffre beaucoup de ça. Hein? Souvent, on l'a long, mais on veut le garder. C'est pas juste assez que ça soit long, on veut le garder si c'est le fun. Ou on en veut un peu plus. C'était vraiment bon, fait que là, on aimerait ça en avoir un petit peu plus. Tu sais? Puis là, on n'est pas capable de vraiment avoir une rencontre pleine avec ce qui est agréable, qui ne va pas vers vouloir autre chose. Tu sais. Quand c'est désagréable aussi, c'est possible d'avoir une rencontre pleine avec quelque chose. Tu sais. Mettons les sons de la ville, tu pourrais dire c'est un peu désagréable. Tu sais. Tu voudrais être dans un centre de méditation où est-ce qu'il y a juste le vent dans les roseaux, là, tu sais, puis les crickets. Tu sais. Puis là, tu te retrouves, puis il y a du trafic. Mais quand l'esprit se calme, puis devient dans les bonnes conditions, puis accepte la réalité telle qu'elle est, tout à coup, le doux son du trafic peut changer de connotation. On peut aller vers le plaisir. Fait que donc, la joie est reliée au plaisir. Pas juste à ça, mais il y a vraiment, on connaît, là, nous, la jouissance de quelque chose qui goûte bon, qui est beau à l'oreille. Alors, l'esprit, la qualité de notre rencontre avec ce qui se passe peut avoir une certaine influence là-dessus. Tu sais, c'est pas comme, ah ouais, sois attentif, tu vas vraiment aimer ça. T'haïs ça, là, mais sois attentif, tu vas vraiment aimer ça. Non, ça marche pas exactement comme ça, mais il y a des moments où il y a un petit jeu là, qui peut se faire. Parce que notre esprit qui cherche la stimulation tout le temps, qui cherche autre chose, qui pense que c'est ailleurs, il n'arrive pas à rencontrer ce qui est déjà là puis à l'apprécier. Tu sais. Alors ça peut être un entraînement qu'on peut faire. Voir, est-ce que je peux être là? Ce soir, vous laisserez en marchant, si vous avez quelques secondes, en marchant vers où vous marchez, juste de sentir, de se dire, tiens, est-ce que je pourrais vraiment noter l'expérience de la rue Saint-Denis à soir? Puis là, oups, peut-être vous allez être touché par la luminosité de la nuit, ou le son des pas, ou l'humidité dans l'air, ou il y a peut-être quelque chose qui va faire comme, ah, c'est frais, c'est... Ah. Puis il y a quelque chose tout à coup qui va pouvoir être appréciable, qui va être porteur de joie, là, d'une joie jouissance. C'est pas la seule qu'on a. Nous, on pense que c'est la seule source de joie qu'on a, plusieurs d'entre nous. On pense que la seule source de joie qu'on a, c'est le plaisir. Est-ce que vous me suivez? Ah, quand ça va être le fun, ça va coûter bon, là, ça va être joyeux. C'est une seule des formes de joie. On en a déjà nommé une autre, là, qui est la capacité de se réjouir pour le bonheur de quelqu'un d'autre ou une qualité de quelqu'un d'autre. Hein? Alors ça, c'est tout un autre champ là, qu'on peut développer. Le Dalai Lama, lui, dit ça, là, si tu es capable de te réjouir pour les qualités de quelqu'un d'autre ou la joie de quelqu'un d'autre, tu tapes, c'est le là, j'utilise une expression anglaise, là, tu rentres, tu te donnes accès à un puits infini de joie. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un pour qui quelque chose va bien. Ou il y a toujours quelqu'un autour qui va avoir une certaine belle qualité, tu sais. Le courage, la générosité, la clarté, de l'intelligence, de l'intuition, je ne sais pas quoi. Mais donc, c'est hallucinant comme... moi, ça me fait capoter cette proposition-là. Si tu arrives à te réjouir pour le bien-être de quelqu'un d'autre, tu viens de multiplier tes chances de joie par... Combien on est sur la planète? 7, 8, 9 milliards? 5? 7? 7? On est encore 7? Maudit hétérosexuel! Come on! Les gars, les filles! J'espère que vous me permettez de m'amuser un peu. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est une autre forme de joie qui s'ouvre. Voulez-vous que j'en ouvre une couple d'autres, peut-être? Puis on va pratiquer un peu. Alors, là, j'en ai nommé une autre qui est la joie du contentement, la capacité de rencontrer, d'avoir une expérience d'intimité. Ça, c'est quand on laisse tomber, c'est la joie aussi, on pourrait dire, du renoncement. Quand on laisse tomber l'idée que ça devrait se passer autrement, que je devrais être quelqu'un d'autre, que je devrais sentir quelque chose d'autre, quand on abandonne ça, puis moi, je ne vous propose pas d'abandonner ça pour le reste de vos jours. Là. On ne veut pas embarquer là-dedans. Mais des fois, une seconde, de se dire, tiens, mettons là, que je laissais tomber l'idée que ça devrait être autrement. Est-ce que je pourrais rencontrer ça plus pleinement? Puis est-ce que ça me donnerait accès à quelque chose d'autre? Cette joie-là d'être au milieu de ça tel que c'est, tu sais? Est-ce que ça me donnerait accès à de la créativité, à quelque chose d'autre que quand je suis comme ça, je voulais, tu sais? Mais ah, c'est ça qui se passe. Regarde donc ça, toi. Là, il y a un rhume qui commence, mettons. Waouh! C'est comme ça. Tu sais? Ça, c'est ça l'ouverture du cœur. Hein? C'est la proximité avec ce qui se passe. Alors, il y a ça qui s'ouvre, là. Donc, le contentement. Dans la pratique aussi, une autre forme de joie qui est importante de nommer, puis c'est encore dans les eaux de ce que je mentionne là. C'est dans les eaux de la pleine conscience. Ça vient dans le sillon d'une attention qui est non jugeante, non exigeante. Ce qui se développe, c'est de la curiosité. Alors, si je laisse tomber mes préférences, puis que je me dis, ah tiens, il fait chaud, mettons, à soir ici, au lieu de, ah, il fait bien trop chaud, il ne devrait pas faire chaud de même, il faudrait que tout ça, puis que je me dis, tiens, attends donc, mettons ça de côté, là, mon opinion. Ah, c'est comme ça en ce moment. Waouh, je sens perler la sueur sur mon front. T'sais, c'est comme ça en ce moment. il peut embarquer cette qualité-là qui peut venir, qui s'appelle la curiosité. Qu'est-ce que c'est cette expérience-là en ce moment de l'attente, mettons que j'attends, de je sais pas quoi, là, tu sais, j'ai pas eu ce que je voulais. Ah, qu'est-ce que c'est cette expérience-là d'être séparé de ce que je veux? Kick in, une autre expérience. Alors, est invitée la curiosité. La curiosité, c'est le chemin vers l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est « wow, c'est donc bien intéressant, c'est comme juicy ». Ce qu'on voit beaucoup se développer chez les méditants, la curiosité qui est comme « wow, ça, je me suis jamais arrêté à ça. Pourtant, je vis ça régulièrement. Laisse-moi voir ça. Ça ah, l'impatience, c'est donc bien intéressant, l'impatience. » Voyez-vous la révolution de l'esprit? Là, c'est la libération du Bouddha, on est là-dedans. Là. Il n'est pas comme « Ah, mon Dieu, je suis encore impatient » ou il n'est pas dans la transe de l'impatience. Il est « Ah, l'impatience. Ah oui, ça fait ça de même. Puis c'est comme ça. » Tu sais? Je ne sais pas quoi. Puis là, l'esprit devient intéressé. Alors ça, c'est une ouverture vers une sorte particulière de joie qui est la curiosité joyeuse, l'enthousiasme. Dans la psychologie bouddhiste, là, ça a beaucoup de force, en fait. C'est une joie qu'on dit qui est pas juste comme la joie du plaisir. La joie du plaisir, elle peut être un peu vide dans le sens où tu es joyeux, une jouissance momentanée. C'est comme une instant gratification, là, on dit en anglais, alors une jouissance immédiate. Puis elle peut facilement être vide. T'sais? Puis elle peut produire la dépendance aussi. Ça m'en prend plus, il faut que je retourne là. T'sais? Alors que l'enthousiasme, la curiosité, on dit que c'est une joie qui est libératrice parce que, d'abord, c'est une révolution de l'esprit. Au lieu de ne pas vouloir, au lieu de ne pas noter, on s'approche de la vie, on s'approche des phénomènes, on s'approche de la réalité. Fait qu'il y a une connexion avec la réalité. Et en plus, ça va nous faire faire des découvertes. La sagesse, c'est une compréhension plus profonde de la vie. Comment acquiert-on de la sagesse? Est-ce qu'on peut acheter ça? Non. On ne peut pas acheter ça. Comment on acquiert de la sagesse? En prêtant attention à ce qui se passe. En prêtant attention, on va découvrir des choses. On va découvrir que notre attitude n'est pas aidante, par exemple. Tu sais? Si, par exemple, là, mettons, vous avez entendu ça, là, puis ça vous a fait un petit quelque chose. Ah oui, c'est vrai qu'au lieu d'avoir une opinion sur quelque chose, je pourrais m'intéresser au phénomène. Ça ne devrait pas arriver. Attends, c'est en train d'arriver. Comment ça arrive? Ça, cette curiosité-là, elle est libératrice. Ça va nous faire découvrir comment les choses mènent d'une chose à l'autre. Comment une affaire est apparue. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est apparue, tu sais, en soi, dans la relation, etc. Alors, amener ça. Ça, c'est très, très, très libérateur. On peut vraiment... Moi, je pense que c'est une des choses qui a le plus de valeur dans notre esprit. Puis c'est bon de le nommer pour qu'on puisse le reconnaître. Ah, est-ce que je pourrais amener un peu de curiosité à ça? Je suis habitué de faire ça de façon justement habituelle, automatique. Est-ce que je pourrais le faire avec un peu d'implication? Tu sais? C'est ça qui arrive aux gens qui font ce qu'ils aiment faire. Hein? Quand on fait ce qu'on aime faire, là, le sport qu'on aime, c'est généralement parce qu'on est engagé. Notre esprit, on veut que ça se passe, on veut être là. C'est pas juste parce que c'est plaisant. C'est parce qu'il y a une qualité dans l'esprit. En tout cas, ça, c'est les enseignements du Bouddha qui dit c'est pas tellement le fait que tu descends en vélo de montagne, la côte. Là. C'est pas tellement ça. C'est les qualités de ton esprit qui font que tu veux le refaire encore une fois. Il y a peut-être du plaisir là-dedans, mais ta façon de ne pas vouloir autre chose, de ne pas penser au futur, de ne pas penser au passé, ta façon d'être engagé dans cette réalité-là fait que tu veux y retourner. Fait que si jamais tu te retrouves pas de vélo de montagne, t'es pas mal pris parce que tu peux amener de la curiosité à ce qui se passe. T'sais. Par exemple, moi, je vais vous décrire un moment intéressant aujourd'hui. J'ai ramassé mes vieux bossards à terre, puis là, j'ai commencé à marcher pour aller les mettre dans le panier à lavage, puis j'ai senti qu'ils étaient en laine. T'sais, ils n'étaient pas en coton, ils étaient en laine. Puis là, mon esprit s'est intéressé à l'expérience pendant que je marchais. Puis là, je me disais, wow! C'est capoté, c'est une autre texture, tu sais. Non, mais la sensibilité d'un être humain est telle que tu peux reconnaître sans voir coton, tout ça. Puis là, je touchais à ça, puis j'étais vraiment très intéressé. Puis là, je suis allé vers la poubelle, j'ai mis mes bas dans la poubelle. Là, je me suis reviré de bord, je me suis dit, Oups, mon attention. Elle n'était pas assez large. Elle était trop, trop focalisée. Là. J'ai perdu le contexte. Là, j'ai sorti mes bas de la poubelle. Je savais les mettre au lavage. Fait que là, mon esprit était très intéressé. C'est, ah, tiens, on voit là, que les dangers d'une attention qui est trop focalisée, qui perd le contexte, tu sais, ça donne ça. Tu sais, donc, une importance de savoir là, où mettre l'attention ou comment l'élargir un peu sur le, ce qui est en train de se passer. Là, tu sais. Alors là, il y a cette joie-là de... Puis on lit dans les... Tiens, je vais finir avec ça avant une autre méditation. On lit dans les vieux textes de l'époque du Bouddha beaucoup d'expressions de joie autour de ça, puis on sent qu'il y a un mélange de la joie de la nature. C'est, il y a une série de poèmes qui sont les Terigata, je crois, qui sont des poèmes écrits par les moines à l'époque du Bouddha qui vivaient dans la forêt. Puis ils expriment tellement de joie, là, ils disent des choses comme « J'adore cette formation », je traduis en français, là, mais « J'adore ces formations rocheuses, qu'est-ce que j'aime cette paroi rocheuse, tu sais. » Tu t'imagines, ils sont dans une petite caverne, là, une petite affaire de même dans une roche, là, dans des roches, juste pour se protéger d'un peu, là, de je sais pas quoi, tu sais, de la pluie peut-être. Puis ils sont assis comme ça. Puis là, j'imagine, moi, quand je lis ça, j'imagine que là, ils sont concentrés, ils ont calmé l'esprit, ils ont pacifié l'esprit, ils sont restés présents. Puis là, à la fin de la méditation, ils ouvrent les yeux, puis là, ils voient comment c'est magnifique des roches, tu sais. Là, c'est donc ben beau des roches, tu sais. Puis là, un autre poème après, c'est donc ben beau le son de la pluie. C'est incroyablement beau, tu sais. Si je me déplace de l'époque du Bouddha, puis on va vers le Japon avec la pratique zen, tu lis des haïkus qui sont magnifiques, tu sais. Juste là, à mes pieds, escargot, et quand es-tu arrivé? Tu sais, puis tu vois, tu t'imagines, c'est une qualité de présence qui fait que tu n'as pas besoin là, d'avoir quelque chose d'autre, d'être reconnu par tout le monde. À ton moment de gloire, tu es juste escargot. Qualité de présence à un événement simple, tu sais, escargot. Même si on va très loin dans vers où ça peut mener, ça, c'est la libération. Puis il y a plein de haïkus, il y a plein de poèmes autour de ça. Puis là, ça donne quelque chose comme les voleurs ont tout pris, sauf la lune à la fenêtre. Vous avez peut-être déjà entendu ce haïku-là. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça vient de mal tourner. Le moine, le ryokan, qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Une robe, là, c'est pas une robe. D'habitude, c'est des guenilles qui ont été cousues ensemble, tu sais, des... 3, 4, 7 pierres, puis là, ça fait une cousue ensemble, ça fait une robe. Puis un bol, un peu plus gros que celui-là, peut-être cette grosseur-là, pour aller quêter de la nourriture. Peut-être un rasoir, tu t'imagines un genre de bâton d'une branche quelconque pour se brosser les dents. Puis that's it. T'sais. Puis une petite hutte qui doit couler, là. La pluie doit rentrer là-dedans. Puis là, il arrive, puis il y a quelqu'un qui est passé puis qui a ramassé son bol. T'sais. Il reste plus de bol pour manger. T'sais. Puis il dit... C'est quoi sa réaction? C'est une réaction joyeuse. Hein? C'est comme, wow, ils ont tout pris. Mais c'est pas, c'est vraiment sincère. Là. C'est comme une sorte de naïveté à Dalai Lama. C'est une fausse naïveté. C'est une profondeur de compréhension du monde. Puis là, il dit, wow, incroyable, tu peux pas prendre la lune. La lune, c'est un symbole de l'éveil, en fait. Hein? Il dit, il peut pas m'enlever ma liberté intérieure. Il est venu, il a tout pris, mais il m'a laissé ma liberté intérieure. Ou on le prend comme on veut, on peut penser à la véritable lune. Sa beauté, la beauté naturelle, mais aussi, ah, j'ai créé quelque chose en moi, un espace, un dégagement, puis personne ne peut voler cet espace-là. T'sais. Alors, c'est une autre forme de joie, une joie de la libération, du cœur qui est libéré. Puis ça, c'est possible comment? En amenant de l'attention à ce qui se passe, en essayant de voir, est-ce que je peux être avec ça? Pas juste accepter, mais reconnaître ce qui se passe. C'est pas accepter dans le sens, des fois on pense accepter, ça veut dire qu'on fait plus rien, puis on laisse le monde exagérer. Puis non, être engagé dans la réalité. Ça veut dire que, ah, il se passe telle affaire en ce moment, ça fait pas mon affaire, je vais intervenir. Mais est-ce que c'est possible de le faire en étant engagé? Oui, ça va arriver que le monde ne va pas dire ce qu'on veut qu'il dise. Oui, ça va arriver qu'on ne va pas se sentir comme on veut se sentir. Et est-ce qu'on peut laisser ça être connu? Fait qu'essayons ça là, dans cette méditation-ci un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez pratiquer debout, hein, si ça fait... c'est trop les jambes pliées là, ou quelque chose comme ça. Si vous voulez aller chercher une chaise, vous pouvez aller chercher une chaise. Alors, essayons de voir si on peut se laisser vivre l'expérience pleinement de quelque chose qui est en train de se passer, ou le plus pleinement possible. Est-ce qu'on peut se... Première chose qui vient, peut-être. Est-ce qu'on peut se laisser sentir la chaleur ou la petite fraîcheur qui peut passer ici et là, parfois? C'est sentir, se laisser sentir les picotements dans les mains, peut-être. Je nomme des choses, là, vous pouvez rester où vous êtes. Si c'est plein, là, si une présence pleine, pleine conscience. Se laisser sentir, vivre l'expérience de l'absence momentanée de parole dans l'esprit. Un espace mental qui est dégagé, même si pour juste quelques secondes. Se laisser découvrir, oui, l'expérience de la pensée, quand des paroles tout à coup sont entendues ou prononcées. Juste laisser ça être, admettre ça. Pas être complètement pris par ça ou rejeter ça, mais peut-être être curieux de ça. Le phénomène de la pensée. Qu'il s'agisse de paroles ou d'une image tout à coup qui apparaissent vaguement ou clairement dans l'esprit. Se laisser vivre pleinement l'expérience du son, de l'ouïe. C'est son attention complètement enrobée, embrassée, devenir, on pourrait presque dire, un phénomène comme la respiration, une inspiration ou un son. L'apaisement, la pacification du mental, c'est laisser son attention, donner complètement sa présence à ça. Le picotement dans les doigts. C'est possible que notre esprit se mette à divaguer de façon habituelle, se perde dans les obsessions, les fascinations usuelles. C'est le bon mot. Là, nous, on invite une autre forme d'attention plus pleine, la pleine conscience. dans un poème de Lippo, dit « Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. Nous sommes assis, le paysage sonore et moi, jusqu'à ce que seulement le paysage sonore ou l'ouïe demeure. Vous pouvez voir s'il y a quelque chose du monde de la présence méditative que vous voulez inviter, garder, continuer à cultiver de l'autre côté, là, quand la cloche sonne, une certaine présence. La dernière joie à laquelle je faisais référence, la dernière dans le sens de juste là, là parce qu'il y en a plein, mais celle à laquelle je faisais référence juste là, c'est une sorte de joie particulière, la joie où est-ce que on laisse tomber la fascination, l'obsession de soi. Hein? Alors là-dedans, là, nous sommes assis, la montagne et moi, ou le paysage sonore et moi, jusqu'à ce que seulement l'ouïe demeure, ou la respiration demeure. Puis là, on vient d'abandonner le « qu'est-ce qui va m'arriver plus tard, puis je le fais-tu bien? » Puis toute la référence au « je », l'unité de mesure, obsédante chez les êtres humains, là, tu sais. Puis là, on prend un break de soi. On n'est pas dans l'oubli de soi où est-ce que les gens exagèrent sur nous. On est plus dans le soi fluide ou les identités fluides. On est capable de pas toujours être soi. Tu sais, on peut être juste un corps qui respire ou juste être de l'ouïe. Ça fait du bien. Hein? Tu sais, pogné avec toi-même toute la journée, mais là, ben non, t'es pas pogné avec toi-même toute la journée, tu peux prendre une pause. C'est pas une pause, on n'est pas dans la haine de soi, là. C'est un autre verset. Non, mais il faut faire attention parce qu'on pourrait dire, ah oui, oui, montre-moi ça, je m'aille tellement. Tu sais? Mais là, on n'est pas là-dedans, on est juste dans laisser tomber un peu cette construction constante-là de je suis moi, puis c'est ça qui est en train de m'arriver, puis c'est ça qui va m'arriver, puis je fais du bien, puis je me compare, puis je m'évalue, puis je veux être une autre version de moi-même, ou je veux que les autres la connaissent, cette belle version-là. Puis, en tout cas, toutes les complexités, reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? Là, on laisse tomber ça, puis tout à coup, il y a juste un corps qui respire, puis tu te rends compte que peut-être c'est une autre réalité aussi, que l'autre c'était genre un mirage, une obsession, tu sais, puis qu'on peut pas obligé de vivre tout le temps là-dedans, là. Qu'il peut y avoir juste un corps qui respire, qui entend, ou un esprit qui est calme. Ça n'a pas besoin d'être « je suis calme », ça peut être le calme, tu sais. Ça peut être la bienveillance, ça peut être même l'impatience, c'est pas grave. On a l'impatience d'habitude dans les émotions difficiles, il y a le « je » qui est au centre. Là. Je voudrais que ça aille plus vite. Là, d'habitude, quand on laisse tomber ça un peu, tout à coup, ça se dégage. Là, alors ça, c'est un champ particulier. Là. C'est peut-être plus un petit peu plus subtil. Là. Ça se peut qu'on entende ça et qu'on comprenne pas. Ça se peut qu'on entende ça et qu'on ait une intuition de « oh, ça a l'air du bon stock. » Puis, ah oui, je peux toucher, je peux me l'imaginer, je peux... Ah oui, je pense que c'est un champ d'exploration là, qui vaut la peine qu'on s'y attarde. Voyez-vous quelque chose là-dedans? C'est du bien, là, des fois, d'être, comme un de mes profs disait, un piéton. Comme un anonyme, là, tout à coup, d'être pas tellement celui-ci ou celle-là, mais juste de la vie. Là. Pas s'approprier la vie, en fait. Hein. Il y a de la nature, là, il y a de la nature. Puis de laisser la nature être ce qu'elle est, la lourdeur être ce qu'elle est, le mouvement être ce qu'il est. Puis la psyché être une expérience naturelle, la conscience. Puis de ne pas trop prendre ça personnel. Là, c'est pas obligé de me définir ce qui se passe. Ça peut être juste la vie qui est en train de se passer. Puis juste en partant, peut-être je pourrais nommer une autre forme de joie, juste parce que ça se pourrait qu'on la rencontre cette semaine, ou qu'on l'invite, ou qu'on la reconnaisse, ou l'opportunité. Une des formes de joie dans la psychologie bouddhiste, c'est la... j'aime l'expression en anglais, Colin Dubin, c'est « the bliss of blamelessness ». Alors, c'est toute la joie qui peut venir d'un comportement éthique. Donc, de ne pas abuser des gens, de ne pas abuser de la confiance des gens, de ne pas abuser de leur... de ne pas abuser de avec nos paroles des gens, de ne pas manipuler la vérité, la réalité, ce qui s'est passé. T'sais. Alors, d'avoir un comportement éthique, on dit, ça, on peut avoir beaucoup, beaucoup de joie de ça. Alors, c'est bien de se rappeler de ça en communauté, de dire, hey, il peut y avoir... Quand tu te couches le soir, tu te dis, wow... Tu sais, j'aurais pu, là, mais en fait, j'ai décidé d'être honnête à cet endroit-là où j'aurais... Puis, donc, de valoriser ça, d'apprécier ça. Puis, le Bouddha disait, là-dedans, là, t'es pas pogné dans la justification, là, quand tu te couches le soir, tu vas, ouais, mais non, mais j'ai raison, il me paye pas assez, j'ai bien le droit de prendre ça, puis je sais pas quoi, tu sais. Puis là, c'est très... ça prend beaucoup d'espace mental, ça, se justifier ou éviter la honte ou le remords. Ou l'agitation qui peut venir d'un comportement qui est pas éthique, tu sais, je vais-tu me faire pogner ou pas me faire pogner, tu sais. Si on, c'est quand on ment, là, comment on construit une petite architecture, là, de mensonge, puis qu'il faut l'entretenir, cette affaire-là, là, avec ouais, d'autres genres de piliers, puis d'affaires, puis là, c'est tout croche, la construction, puis là, tu te demandes si ça va résister, tu sais, puis quand tu laisses tomber ça, puis là, ah! Puis on dit, je le mentionne aussi, parce qu'on dit pour ceux et celles... Les êtres humains qui veulent pratiquer la méditation, c'est important de connaître cette sorte de joie-là, parce que quand on ne vit pas dans un... c'est vraiment étrange là, d'aller prendre un cours de méditation, puis que ta vie est pas bien, ta vie est tout croche, puis tu t'abuses du monde, puis tu fourres le monde finalement. Puis là, tu t'assois là, puis tu voudrais avoir un esprit calme, puis pacifié, puis avoir accès à toutes les autres sortes de joie. Le Bouddha dit, ben non, mon grand. Là. Faut que tu nettoies un peu cette région-là, là, si tu abuses du monde avec tes paroles, tout ça, quand tu vas venir t'asseoir ici, là, tu vas être bien occupé, là, ça va être bien. Tu vas t'agiter, là, ça va bouger. Là, ça va être dur là, de rester sur le coussin, là, parce que tu vas être bien occupé. T'sais. Fait que peut-être de voir ça, de la présence de ça chez soi. Tiens. Et là, je suis pas en train de. Il y a toutes sortes de nuances à apporter là-dedans. Des fois, nos intentions sont bonnes, puis les gens sont blessés, tout ça. Là. Alors, il y a intention, impact, beaucoup de choses à considérer, là, mais de revenir à ça. Le Dalai Lama, je l'ai entendu dire ça. Je suis protégé par mes intentions. J'ai assez développé de pleine conscience. Je suis conscient de mes intentions. Au lieu d'être souvent de l'autre côté de nos intentions, on s'en rend compte. C'est rendu chez nous, on est dit « Ah, mon Dieu! » « Ah mon Dieu, c'est ça que j'ai dit. » Puis mon intention, c'était vraiment un petit peu cruel. Là, où, c'était vraiment de... Je voulais obtenir quelque chose, puis j'ai comme vraiment corrigé beaucoup la réalité. Tu sais, je l'ai amélioré, ou caché, tu sais, pour obtenir quelque chose. Puis là... Alors, the bliss of blamelessness, de pouvoir se dire, ah, tiens, j'ai agi de façon intègre, on peut y penser de cette façon-là, avec intégrité, tu sais. Pour avoir cette paix-là, cette capacité-là de se réjouir. Dire, ah, tiens, il aurait pu y avoir de l'abus, là, puis il n'y en a pas eu. T'sais. Il y a eu le renoncement à ça. Alors, ça, c'est intéressant comme petit champ d'exploration. Là. Pour. Non, vous êtes des anges. Pour moi, que c'est intéressant comme champ d'exploration. OK, alors j'ai pas tout couvert, évidemment. J'espère que j'ai pas, genre, je vous ai pas trop bourré la tête. Là. J'ai essayé de nommer quelques... En fait, c'est des champs d'exploration. Moi, je le vois comme ça. Hein. Il y a le champ de l'éthique, le champ du contentement, de la présence plus pleine à ce qui se passe pour développer un autre rapport, ouvrir quelque chose. Là. Hein? Le champ de l'appréciation du beau, du plaisant, des qualités des autres. Alors ça, j'ai l'impression qu'on va voir des opportunités pendant la semaine. Puis c'est pas des choses qu'on fait pas, là. C'est des choses qu'on fait déjà, on fait juste leur redonner de la valeur, là. Puis dire, ah tiens, on peut peut-être s'éveiller à ça. Puis quand on le voit chez les autres aussi, apprécier ça, là. Qu'on voit les qualités chez les autres, ou la présence de la joie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la joie, là, tu sais? Puis comment est-ce que... Quel impact ça a quand il y a une... quelque chose, tu sais, qui est présent puis qui est aidant pour tout le monde. Là. Parce qu'on est très poreux, hein. Tout ce dont on parle, là, c'est de l'intérêt. Il y a plein de mots, là, je les oublie tout le temps. Inter-être, là. Ou, on se refile ça les uns aux autres. Comme je vous racontais, ma tante avait refilé quelque chose à toute une crowd, là, qui s'en souvenait, qui avait été impressionnée par ça. C'est ça qui est ça à soir. J'espère qu'il y a quelque chose là-dedans. Alors là, c'est le joyeux pliage de la couverture. Puis je vous souhaite une bonne semaine. Ah, puis on n'a pas parlé du devoir, tout ça. Ben là, on va ajouter un autre 5 minutes. Ça fait 10 minutes par jour qu'il faut trouver. Sous le bas de toilette, dans le lit, dans le divan, dans la chaise berçante, dans l'autobus. Mais un petit 10 minutes, où est-ce que on explore ça, on favorise ça? Ça me dérange pas. Ça peut être en pensée, en réflexion, en méditation, en baignant dedans. Quelque chose, ça vaut la peine parce qu'on fait de la neuroplasticité, là. On est en train de réorganiser le cerveau, là. Ça, il n'y a personne qui peut le faire pour vous, là. Le Bouddha s'est occupé de lui, puis là, nous autres, ben, c'est ça qu'il nous dit. Occupez-vous de vous-même, là. T'sais. OK? Bonne semaine. Merci.